Merci beaucoup. On va prendre une question pour notre invité. Est-ce qu'il y a une question pour notre invité ici à Kinshasa? Oui. Prenez le micro. Allons-y.
Bien, je suis Monsieur Nkere Maï Serafin. Je suis de l'Agence congolaise de presse. Sincèrement, la situation sécuritaire au niveau, par exemple, de Goma est très, très délicate, à mon avis. Parce que je me souviens qu'un jour, nous avions fait même le tour de la ville de Goma avec les casques bleus pour voir de quel côté les rebelles du M23 pouvaient attaquer le pays, attaquer la ville. Mais quand on me dit aujourd'hui que le M23 est ressuscité, ça nous inquiète parce que je pense qu'après plus de 20 ans de la présence de la MONUSCO dans notre pays, une ville telle que la ville de Goma devait être vraiment en sécurité. Mais il est étonnant que... Oui, mais je vais passer à...
On aura l'occasion d'en poser d'autres. Est-ce que...
Oui. Comment expliquer que le M23 peut ressurgir à quelques kilomètres de Goma, alors que Goma constitue le siège même, si je peux dire, des efforts de la MONUSCO à l'Est. C'est ça.
Une question pour moi alors ou pour Monsieur le Marquis?
Je ne sais pas. Vous pouvez la prendre tout comme le militaire peut la prendre.
Écoutez, je pense que ce qui est fondamental de comprendre quand Monsieur le Marquis parlait de causes profondes, c'est qu'il y a effectivement dans le désarmement, la démobilisation et la réintégration des membres des groupes armés, donc tous les programmes de DDR, il y a effectivement des choses qui n'ont pas été réglées jusqu'au bout. C'est vrai pour le M23 et c'est vrai pour d'autres groupes. Il y a eu toute une politique qui a réintégré à un moment donné dans les forces armées des soldats. Il y a des soldats, des combattants de groupes armés à qui on a promis de soutenir la démobilisation et ces promesses n'ont pas été suivies d'effets assez rapides. Donc effectivement, on a toujours des éléments résiduels de ces groupes armés sur lesquels il faut travailler. Et c'est pour ça que le programme de DDRCS, dont la stratégie a été validée début avril, c'est quelque chose que les Nations Unies et la MONUSCO notamment sont disposées, sont prêtes à soutenir, et nous encourageons les autorités, et notamment le développement de plans provinciaux qui ciblent précisément les éléments résiduels de groupes armés et tous les combattants qui sont disposés à rendre les armes. On va aller à Goma, vu qu'on parle de Goma.
Moi, c'est M. Papi Okito, éditeur du journal Écho d'Opinion.
Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît.
Oui, j'ai dit ma question, je la pose au major. En fait, depuis longtemps, la mission a toujours refusé d'entrer dans le combat avec les rebelles. Mais au moment où ils entrent dans la danse, nous voyons qu'il y a beaucoup de morts de la part des éléments de la MONUSCO. Est-ce que c'est cette faiblesse de l'armée onusienne?
J'ai pas entendu la fin de la question, mais je pense qu'il y a toujours une incompréhension de base sur ce que l'armée onusienne, comme vous dites, vient faire. L'armée onusienne n'est pas ici en République démocratique du Congo pour se substituer à votre armée. Elle est là pour soutenir votre armée, à la fois de manière dans la logistique, à la fois dans la préparation et la planification des opérations. Mais il faut bien comprendre que vous avez une armée souveraine, vous êtes dans un pays souverain et vos forces de sécurité nationale reçoivent le soutien de la MONUSCO dans les zones où elles le souhaitent. et nous sommes déterminés à continuer à les soutenir. Nous les soutenons d'ailleurs de manière active, comme l'a dit mon collègue militaire en ce moment, contre les ADF dans certains endroits. Nous avons été régulièrement attaqués ces derniers jours par la CODECO. Nos bases ont été régulièrement attaquées par la CODECO 4 fois à Amé, à Jitso, à Njala, à Panga Panga, et à chaque fois nous avons réagi, à chaque fois nous sommes sortis de nos bases. Il y a d'ailleurs deux personnes qui ont été enlevé hier à Sou, qui est à côté de Rho également en Ituri, et les casques bleus ont permis leur libération en intervenant. Mais nous ne sommes pas là, encore une fois, pour nous substituer à votre armée. On revient ici.
Ma question au représentant adjoint du secrétaire général. Vous avez certainement la cartographie de la situation humanitaire du pays. Où se trouve la priorité des priorités, dans l'Est et aussi dans la partie occidentale du pays? Merci.
Alors, comme j'ai dit, je découvre, je suis en phase d'apprentissage, mais quand j'ai regardé les chiffres, par exemple, il y a un document qui s'appelle ECHENO. Quand on lance le plan de réponse humanitaire, l'acronyme en anglais c'est donc plan de réponse humanitaire, mais il est précédé par une phase de travail sur les chiffres. Voilà, c'est l'analyse. Cette analyse, donc, qui compile les chiffres de l'insécurité alimentaire, de la situation sanitaire, des déplacements, etc., donnait un total de personnes en besoin d'assistance humanitaire pour 2022 de 27 millions. Donc, une personne sur trois, à peu près, plus ou moins, dans le pays. Ces 27 millions, grosse concentration dans l'Est, y compris toutes les personnes déplacées internes, mais également beaucoup de besoins humanitaires dans le reste du pays. Par contre, la distinction qui est faite ensuite, c'est ce qui va dans le plan humanitaire qui est ensuite proposé pour financement, c'est les populations avec des vulnérabilités croisées multiples, donc les personnes les plus vulnérables. Mais par rapport à votre question, le point que je veux faire, c'est que les réponses humanitaires, l'action humanitaire, elle est appropriée pour des besoins humanitaires qui correspondent à des chocs, à des crises, à des déplacements, à de l'insécurité, etc. Donc là, il faut très très vite avoir des réponses d'urgence. La plupart des besoins parmi les 27 millions, ils sont chroniques. Donc, c'est-à-dire parce que c'est le manque de développement, c'est la pauvreté, c'est, etc., l'accès au marché, etc. Donc les populations, l'essentiel, la majorité de la population congolaise vit sous le niveau de pauvreté et une partie sous le niveau d'extrême pauvreté. On ne résout pas les problèmes d'extrême pauvreté avec des réponses humanitaires. Donc les approches doivent être différenciées dans le pays. Quand il y a des poches, même dans l'Ouest, quand il y a des poches de besoins humanitaires dus à une situation soudaine, là il faut de l'aide humanitaire. Sinon, il faut des approches à plus long terme qui sont basées notamment sur le renforcement des systèmes nationaux, oui, les partenaires nationaux, qu'ils soient publics, sociétés civiles, etc., pour que le développement progresse.
Merci, on va aller à Béni et ensuite on revient à Kinshasa. Béni, est-ce que vous avez une question?
Oui, s'il vous plaît.
Oui, je m'appelle Roger Kafulera et je suis journaliste à la radio Oasis, Congo FM Béni, et correspondant à la radio Biwan Kinshasa. J'ai deux petites questions. La première question est de savoir où en est-on avec l'enquête annoncée après la destruction de l'appareil de la MONUSCO à Rutshuru. La deuxième question est de savoir quel est l'apport spécifique de la MONUSCO aux opérations conjointes FARDC et UPDF dans la région de Béni. Donc, quel est l'apport spécifique, quel est ce qui apporte la MONUSCO aux opérations conjointes FARDC et UPDF? Et la sous-petite question, dans le même angle, qu'est-ce qui explique une certaine faiblesse des opérations après l'intervention de la MONUSCO dans les dites opérations conjointes FARDC et UPDF à Béni?
Merci. Merci. Alors sur l'enquête, nous n'avons pas d'informations, elle est toujours en cours, donc nous n'avons pas d'informations à partager à ce stade. Concernant les opérations qui ont lieu, d'un côté, vous avez effectivement les FARDC qui travaillent avec l'armée ougandaise, et de l'autre, vous avez les FARDC qui travaillent avec nous. Nous n'avons pas de mandat pour soutenir une armée étrangère en République démocratique du Congo. Donc ce qui est important pour nous, c'est de coordonner les efforts. Et nous sommes donc dans le cadre d'une coordination, on va dire, tripartite pour faire en sorte que nos efforts se complètent. Mais il n'y a pas de soutien direct de la MONUSCO à l'armée ougandaise. C'est quelque chose que notre mandat ne nous permet pas de réaliser. Je vous écoute, oui.
Moi, c'est Augustin Darama, média ligne leraquet.net et directeur de publication du Code Afrique Magazine. Ma question s'adresse au major Goma. Juste une question. Quand est-ce que la MONUSCO va libérer les zones conflits armés entre les mains des FRDC, comme a fait hier la force Barkhane au Mali, précisément à Gossi, en libérant Gossi entre les mains de l'armée malienne? C'est la première question, puisque souvent c'est le bilan que la MONUSCO nous donne. Il y a eu autant de morts. Et si la question humanitaire, vous avez parlé de déplacer les guerres à l'est du pays, mais actuellement les bailleurs de fonds et les partenaires de la RDC ont les yeux braqués sur l'Ukraine. Pensez-vous réellement que les déplacés internes et externes de la RDC vont encore bénéficier de le même appui que les peuples ukrainiens aujourd'hui, qui sont considérés par les yeux des Nations Unies comme le peuple intouchable?
Je vais commencer. Je dois avouer que je n'ai pas très bien compris la libération par la MONUSCO de zones qui seraient sous la coupe de l'armée congolaise. Je voudrais rappeler encore une fois, c'est vraiment très très important, parce que je pense que c'est vraiment une incompréhension de base qui continue d'exister sur le rôle des casques bleus dans ce pays. Nous sommes ici à l'invitation de votre gouvernement, avec le consentement de votre gouvernement et de vos autorités, de vos forces de sécurité nationale, pour les aider à stabiliser le pays. Nous nous sommes retirés d'une la plus grande partie du pays, notamment ces trois dernières années. Nous l'avons fait au Kasaï l'année dernière, nous l'avons fait au Tanganyika, lorsque les forces de sécurité nationale, même si elles ont encore des progrès à faire, mais lorsque ces forces de sécurité nationale peuvent gérer, à notre sens, leur propre souveraineté et leur population, dont elles sont les premières responsables. Et nous continuons à travailler là où votre armée, votre gouvernement, vos autorités nous disent « Ici, il y a encore un problème pour lequel nous avons besoin d'un soutien international. » Et c'est le cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, où nous allons vraiment concentrer tous nos efforts pour créer les conditions, en réalité, de notre départ. Et je vais laisser Monsieur le Marquis répondre sur l'humanitaire.
Donc pour nous, humanitaire, pour nous, Nations Unies, une personne dans le besoin est une personne dans le besoin où qu'elle se trouve dans le monde. Donc le plaidoyer va être le même auprès des partenaires humanitaires, les États membres, les bailleurs de fonds, mais on sait que ça va être très 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 difficile cette année. Ça l'était déjà l'an dernier. En plus des crises, des grosses crises, le Yémen, la Syrie, maintenant la Corne de l'Afrique, où il y a une sécheresse qui n'a pas eu lieu depuis très très longtemps, le niveau de sécheresse, au mois d'août l'Afghanistan, et maintenant la crise en Ukraine. Donc le plaidoyer va être extrêmement difficile, mais une personne dans le besoin est une personne dans le besoin. Donc on va faire tout ce qu'on peut avec les autorités nationales pour faire ce plaidoyer pour les ressources. Néanmoins, il y a une fatigue, c'est pas qu'ici, toutes ces crises prolongées entraînent de la fatigue chez les bailleurs de fonds. Donc c'est toujours très très important dans ces crises prolongées que les États membres, les bailleurs de fonds, les amis de ces pays, les amis de la RDC voient que du côté national, il y a aussi des choses qui sont faites. Il y a des ressources qui sont aussi investies, il y a des mesures qui sont prises, c'est la redevabilité collective, il y a des mesures qui sont prises en termes de protection des civils, en termes de sécurité. Par exemple, quand il y a des attaques contre des humanitaires, qu'on sente que les mesures sont prises, oui, qu'il y a un suivi, etc., pour que ça renforce la confiance aussi des bailleurs de fonds vis-à-vis du pays. Donc, comme on dit, il faut être deux pour danser le tango, la rumba. Donc c'est important qu'il y ait des efforts plus il y a d'efforts au niveau national et plus c'est facile de faire le plaidoyer au niveau international.
Question pour Goma, s'il vous plaît.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Sami Chamamba, du journal Congo 26. Bon, je voulais toutefois revenir sur la question du chapitre 7 des Nations Unies. Et à quand cette applicabilité, parce que la persistance de l'insécurité existe. Je pense que depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais appliqué ça. Est-ce que ça sera un jour appliqué? Merci.
Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion sur ce qui a été appliqué ou pas, mais nous sommes clairement sous le chapitre 7 et nous réagissons du mieux qu'on peut. En tout cas, c'est notre devoir. Peut-être que parfois ça ne s'est pas produit, mais c'est notre devoir et c'est notre responsabilité d'intervenir quand il y a des menaces directes sur une population civile. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire au mieux, sachant encore une fois que nous travaillons dans des zones où la présence de l'autorité de l'État est extrêmement faible, les infrastructures sont extrêmement faibles, donc il arrive effectivement qu'on arrive trop tard. Mais nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être le plus agile possible et nous intervenons de manière robuste aux côtés de votre armée et nous rentrons en confrontation directe avec les groupes armés. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la CODECO, c'est également avec les ADF. Vous savez, nous avons perdu un casque bleu il y a 2 semaines. Nous avons en tout 400 personnes, 400 membres du personnel qui sont morts au Congo au service de la paix. Et donc je pense que s'il doit y avoir une preuve du fait que nous sommes effectivement engagés de manière résolue et active contre les groupes armés en faveur de la protection de la population, c'est ce chiffre terrible qui fait de la République démocratique du Congo un des pays où le plus de casques bleus sont morts. On va reprendre.
Albert Omban, America TV. À ma souvenance, il y avait des mesures très 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 sécuritaires qui étaient prises pour sécuriser la ligne Bunagana-Goma. Et vous vous souviendrez qu'il a suffi l'effort conjugué des FRDC de la MONUSCO pour buter dehors les M23 pendant 48 heures. Et il a suffi aussi à ce que la Nations Unies mette fin aux groupes armés étrangers dans les années 2015-2016. La question, est-ce que cet effort n'est plus de mise parce que vous devez faire le bilan et quitter le pays? Et la seconde question, c'est le désarmement, démobilisation de tous ces groupes armés. Aucun effort n'a été fait depuis qu'on a mis dehors les M23 comme les ADF, parce qu'il n'y avait pas une structure comme la CONADER à l'époque. Est-ce que la MONUSCO est disposée à faire un plaidoyer, là je m'adresse au coordinateur humanitaire, pour qu'une structure qui doit financer la démobilisation, parce que la République démocratique du Congo, à mon entendement, n'a pas assez de moyens pour le faire. Est-ce que le coordonnateur est disposé d'abord à faire un plaidoyer pour qu'on puisse créer cette structure et la financer?
Vous pouvez laisser le coordinateur humanitaire répondre. Nous avons 2 minutes, donc Bruno, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question difficile.